Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quel est le point commun entre Cathy Switzer, la première femme à avoir couru le marathon de Boston, et une skateuse qui donne rendez-vous à d'autres femmes pour se faire une place dans un skatepark essentiellement fréquenté par les hommes? L'idée de conquête. Bienvenue dans Conquérante, le podcast de Mademoiselle qui fait parler les sportives. Comment le sport, l'envie et l'ambition leur ont permis de se dépasser, de briser les barrières et de repousser leurs propres frontières. C'est ce que tu vas découvrir dans ce podcast. J'espère que Conquérante saura t'inspirer à mener tes propres conquêtes à travers des témoignages de meufs comme toi et moi qui ont osé prendre leur place et la défendre. Salut, c'est Alix et aujourd'hui on va parler voile puisque je reçois Sam Davies, une skipper qui prépare le Vendée Globe 2020, la course autour du monde en solitaire. Elle embarquera à bord du bateau solidaire Initiative Cœur et elle vient dévoiler dans Conquérante son incroyable parcours de voileuse, sa motivation à repousser sans arrêt ses limites malgré les échecs et sa préparation pour l'une des courses les plus difficiles du monde. J'ai été très inspirée par son discours et je pense que ça te plaira aussi.
Je m'appelle Sam Davies, je suis anglaise mais j'habite en France. Et je suis skipper du bateau Initiative Cœur. Je vais faire le Vendée Globe 2020, donc l'année prochaine, pour faire le tour du monde à la voile.
Ok, trop bien. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé la voile et pourquoi? Pourquoi tu t'es dit ce sport-là plus qu'un autre?
J'ai commencé la voile à l'âge de 2 semaines, je crois.
Ah ouais.
Donc j'ai aucun souvenir, c'est mes parents qui me racontent ça parce que j'ai de la chance d'être née dans une famille de marins.
D'accord.
Donc mon grand-père paternel, il était commandant des sous-marins, dans les sous-marins.
Wow.
Et l'autre grand-père, il avait un chantier naval et lui, il pilotait les bateaux de course à moteur. Donc mes deux parents, ils étaient accros aussi à la voile, mais vraiment pour la plaisir, la croisière, les vacances. J'ai jamais fait de compète avec eux, c'était des week-ends et des vacances. Donc mon premier sport n'était pas du tout la voile. Moi, j'ai fait la natation synchronisée à haut niveau quand j'étais jeune.
D'accord.
Parce que mes parents voulaient que je savais bien nager, parce que c'était pour que j'étais en sécurité dans le lieu familial qui était souvent sur l'eau, à côté de l'eau. Et donc, ils m'avaient envoyé à faire les cours de nage très tôt. J'adorais ça. Et du coup, je suis devenue nageuse de compète.
D'accord.
Donc, la voile, c'était pour la plaisir. Et donc, les premières compétitions en voile, c'était pareil, juste pour rigoler, parce qu'il n'y a que des filles en natation synchronisée. Et donc, pour la vie sociale, j'étais obligée de trouver un autre sport pour rencontrer les garçons.
Donc, tu as commencé la voile, en fait, pour rencontrer les garçons?
Pas vraiment pour rencontrer les garçons, mais c'était un peu le sport détente, le sport plaisir, et j'adorais ça avec mes parents, mais des fois, j'étais un peu frustrée de ne pas faire la compète, parce que j'étais devenue compétitrice avec la natation, et j'ai bien grandi avec cet instinct de compétition, et des fois frustrée en famille de ne pas faire ça avec notre bateau. Donc j'ai cherché un peu ailleurs pour en dehors de la famille, en fait, pour faire la compète à la voile aussi, parce que ça me plaît, mais ça m'a plu.
Et c'était quoi ta première compétition? Comment tu t'es sentie la première fois que tu as fait une compétition de voile?
Ouais, en fait, j'ai fait quelques compétitions vraiment pour rigoler en voile léger avec des copains un peu dans les bateaux un moitié pourri, juste plus pour la vie sociale, mais moi j'étais intriguée par la course large et de naviguer sur les bateaux, les habitables, les bateaux avec une intention d'essayer de faire les grandes courses océaniques, mais le souvenir de première course, vraiment, c'était la première fois que j'ai réussi à convaincre quelqu'un, un étranger, quelqu'un que je connaissais pas du tout, à m'embarquer sur son bateau pour faire une régate en habitable. C'était juste un régate de dimanche, mais
Et ça a duré combien de temps?
C'était que New York de dimanche, donc quelques heures, mais c'était sur un bateau qui pourra aussi partir faire les courses, en des courses plus loin en Transat ou en Transmanche. Et du coup, le souvenir, c'était pas vraiment de la course en lui-même, mais c'était d'avoir eu le courage d'aller frapper sur la porte avec les gens que je connaissais pas pour les convaincre de m'embarquer, parce que c'est ça aussi, c'est pas facile d'entrer dans ce milieu. Et souvent, les gens, ils me demandent alors comment je peux faire, comment on fait pour faire ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir une famille qui naviguait, mais c'était pas aussi facile que ça de faire la course au large, parce que c'était pas du tout dans ma famille, donc j'étais obligée de convaincre les gens que je connaissais pas d'aller frapper sur les portes, de monter sur un bateau, et je savais pas du tout comment faire la régate, parce que pour moi la compétition était la natation, donc à faire les manœuvres avec les bateaux, à utiliser la voile de régate, toutes les termes, tout ça,
oui, c'est tout un monde en fait,
donc c'était plus ça, c'était de les souvenirs d'avoir eu le courage, parce que tellement j'avais envie de faire ça, et puis ouais, d'être un peu perdu au début, et trouver les gens très très sympas qui m'ont épaulé, qui ont peut-être compris mon passion pour ça et mon envie de progresser, et qui m'ont beaucoup soutenu dans ces premières explorations dans la course au large.
Et tu disais tout à l'heure que du coup la voile c'était plus un sport de garçons, enfin de mecs, et est-ce que ça a été difficile, d'autant plus difficile pour toi de t'intégrer puisque t'étais une femme?
Non, au contraire. C'est un peu bizarre parce que j'ai grandi jusque-là dans un plutôt milieu féminin avec la natation synchronisée, et je suis allée à une école où on n'était que les filles. Quand j'ai fait la voile, j'étais pas la seule fille dans le petit club où j'étais. Des jeunes normales, entre guillemets, j'étais pas la seule. Donc, on était peu nombreuses, mais c'était presque plus facile parce que, comme on est peu nombreuses, c'est différent. Et quand on convainc les gens qu'on connaît pas de monter sur un bateau, si on arrive à montrer qu'on est sérieuse, et on a la chance de tomber sur les gens qui ne sont pas machos, on a une limite c'est un peu plus facile parce que c'est différent.
Oui, c'est plus original d'avoir une femme en fait.
C'est original, et assez vite quand j'ai commencé à apprendre vraiment comment manœuvrer, et j'ai fait mes preuves, et du coup là on est dans un petit milieu où c'est un peu les CV, c'est à la bouche à l'oreille, comme on dit en France. Donc là, si on navigue bien et on est sérieuse, déjà très vite, en fait, le message passe dans nos réseaux que Sam, elle navigue bien, elle est toujours à l'heure, elle prend soin des bateaux. Donc là, quand les gens ils cherchent un équipier, souvent, si on est 4 ou 5 pour une poste, le fait que je suis une femme, ça peut différencier. Souvent, les gens, ils ont rendu compte qu'avec une femme dans l'équipage, ça fait une ambiance plus sympa, plus détendue, moins macho, moins concurrence entre les mecs. Donc je dis plutôt au contraire. J'ai pas été freinée, mais peut-être aussi parce que je suis arrivée dans le milieu juste après. Et quelques événements dans la voile, dans la course au large un peu plus publique, sont passés. Donc,
en
Angleterre, il y a une femme anglaise qui s'appelle Tracy Edwards. Donc, elle est très connue dans le milieu anglo-saxon. Et elle avait monté une équipage féminine pour faire The Whitbread Round the World Race. C'était en 89, je crois, ou 87. Donc, c'était le premier équipage féminin jamais à parcourir cette course qui était vraiment macho. Et donc, elle avait réussi à monter un équipage et aussi réussi à y aller jusqu'au bout, y compris gagner les étapes les plus dures. donc contre les mecs. Donc elle avait déjà fait ses preuves, donc moi je suis arrivée un peu après, donc j'étais très inspirée par elle et son équipage, qui ça aussi ça m'a peut-être sans rendre compte convaincue que c'était possible de, pour une femme d'aller faire ça. Donc je pense que grâce à elle, et comme je pense c'était une similaire époque que Florence Artaud en France, c'est la même époque et elle est même un peu pionnière dans la course large, elle a montré que c'était possible que les femmes puissent être compétitives, les femmes puissent aller faire, il n'y a pas de raison. Et donc moi je suis arrivée juste après ça et donc
Donc elles avaient entrouvert une porte en fait.
Oui, oui, une porte pour moi déjà que je crois que c'est possible, et puis pour les gens qui j'étais en train de convaincre de me prendre dans leur équipage, donc soit les propriétaires des bateaux, soit les managers d'équipe. Et donc il y avait en anglais on dit un mind frame que en fait c'était accepter. Entre guillemets. Ça a sûrement ouvert les portes un peu plus facilement pour moi.
Et c'était quoi ta première grande course? Tu fais des courses en solitaire aussi?
Donc, oui, maintenant, je fais les courses larges en solitaire. Mais ma première grande course, c'était une Tour du Monde en équipage, donc un Trophée Jules Verne, Et j'avais 22 ans. Donc, la première fois que j'ai fait une course large, j'avais une Tour du Monde. Wow. C'était quand j'avais 22 ans et je venais de sortir de, en Angleterre, on s'appelle l'université, une grande école. Donc, j'avais fait un diplôme d'ingénieur à Cambridge University. Et j'avais à peine réussi. J'ai raté la présentation de diplôme parce que j'étais au plein milieu de l'océan en train de faire les essais avec cet équipage. Donc c'était mon premier boulot après l'école. C'était de faire un tour du monde en équipage féminine. Donc avec Tracy Edwards, mon héros, qui était le skipper du bateau. Donc j'ai passé très vite entre rêver à regarder mon idole à la télé, à monter en fait dans son propre équipage. Et on a beaucoup rigolé ensemble maintenant après, parce que je pensais qu'elle ne rendait pas compte qu'est-ce qu'elle avait fait pour moi, pour m'encourager. Et maintenant, nous deux, on sait bien.
C'est fou. C'est fou quand même. Que
ouais, c'est fou. C'était fou. Mais pour moi, c'était... c'était une opportunité à saisir et même à ce moment-là, j'ai jamais imaginé que ce serait ma carrière pour la vie ou pour la vie jusqu'à maintenant. Mais c'était une opportunité. J'avais fini ma diplôme et il y avait une équipage féminine qui s'est préparée et je savais très bien que c'était pour faire un tour du monde et après c'est fini. Donc c'est un CDD entre guillemets pour les Français à comprendre. Donc c'est ça aussi c'était une énorme opportunité et c'était un vrai boulot, mais c'est pas des fois on cherche la sécurité. Nous on n'a pas la sécurité de travail non plus, donc je savais pas ce qui allait se passer après.
Ouais, je comprends. Et comment on prépare du coup une grande course comme ça, physiquement et mentalement aussi, parce que j'imagine que c'est assez éprouvant une fois qu'on est sur le bateau.
Oui, c'est très éprouvant, c'est très physique. Maintenant, je prépare le Vendée Globe, qui est l'année prochaine.
Ouais.
J'ai la chance de préparer ça depuis l'arrivée du dernier Vendée Globe.
Oui.
Donc, le Vendée Globe, c'est tous les 4 ans. Donc, c'est un peu comme les Jeux Olympiques. Et c'est un peu comme une préparation olympique. Si on a de la chance, donc moi, avec le projet Initiative Cœur, j'ai la chance d'avoir des partenaires qui savaient déjà qu'ils voulaient faire le prochain Vendée Globe à l'issue du précédent. Ils avaient déjà un bateau. J'enchaîne depuis le dernier Vendée Globe les préparations. Donc c'est une préparation complète. On a une préparation physique. On prépare nos bateaux. Donc on a toute une équipe technique autour de nous qui travaille avec nous. Donc dans le team Initiative Cœur, on est 8 ou 9 personnes en permanence. Donc c'est vraiment une opportunité incroyable de pouvoir d'avoir ce soutien. Mais c'est devenu obligatoire aussi. Pour être performante et en sécurité quand on fait un tour du monde, c'est pas rien.
Oui,
un tour du monde de la voile. Mais donc il y a beaucoup de préparation. C'est quatre années pour ceux qui ont la chance comme moi. Et il n'y a pas que le Vendée Globe, il y a beaucoup d'autres courses tout au long de cette période.
Ouais.
Tous les ans, il y a une grande course au moins. Donc on vient de finir la Transat Jacques Vabre qui était cette année l'année 2019. Mais j'ai pas fait que ça. Il y a d'autres courses plus moins connu, mais du coup chaque année on travaille pour cette grande course. Donc l'année 2019 c'était les entraînements, les préparations pour la Transat Jacques Vabre qui était en double. Mais toujours dans le coin de ma tête, j'ai le Vendée Globe 2020.
Mmh.
Donc depuis 2017, j'ai préparé chaque grande course, sachant que l'objectif final avec ce projet Initiative K, c'est le Vendée Globe. Donc chaque fois j'essaie de choisir avec qui je navigue, si je navigue en double, parce que c'est pas que les courses en solitaire,
ouais.
Pour optimiser le Vendée Globe. J'ai envie d'apprendre si j'ai envie d'apprendre ça, donc je choisirai tel ou tel co-équipeur pour naviguer avec moi. Et même, j'ai envie de tester, essayer des voiles, essayer des matériaux différents. Je vais fabriquer des voiles pour à chaque année ou des voiles pour les tester avec un objectif Vendée Globe, parce que même pour faire un tour du monde c'est énorme, on peut pas faire enchaîner les tours du monde avant pour le tour du monde parce que c'est tellement long.
Ben oui.
Donc il faut essayer de voir, alors est-ce que ma voile va tenir pour un tour du monde, alors je vais fabriquer 2 ans avant et là je vais essayer de naviguer autant de milles qu'un tour du monde avec dans les courses et les entraînements avant pour tout tester. Donc c'est, il y a beaucoup de choses à préparer, donc il y a aussi un prépa physique. Donc là j'ai fait les préparations physiques cette semaine, donc je viens de rentrer du Brésil où c'était l'arrivée de la Transat Jacques Vabre, et là cette semaine j'ai retourné au prépa physique et j'ai fait quelques entraînements un peu style reprise, et là j'ai dit ça c'est les vrais entraînements pour le Vendée Globe, parce que la prochaine grande course c'est ça l'année prochaine.
Ouais, c'est ça. Et comment ça se passe quand tu te retrouves sur ton bateau et ça y est c'est parti pour le Vendée Globe? Comment ça se passe dans ta tête et comment tu fais pour rester seule aussi longtemps aussi?
Donc j'ai la chance d'avoir déjà fait le Vendée Globe en 2008,
ouais.
Et 2012, mais 2008 j'ai fini le Vendée Globe en 4e place. J'ai mis 95 jours, donc cette fois l'année prochaine j'espère de mettre plutôt 70 jours. Donc la technologie avance, ouais. Mon bateau Initiative K il va plus vite que Roxy il y a 10 ans. Donc j'ai beaucoup de souvenirs de ce départ et puis le départ en 2012. J'ai fait le Vendée Globe en 2012, mais malheureusement j'ai pas fini parce que j'ai dimaté, j'ai cassé mon bras. Donc j'ai deux souvenirs de départ de Vendée Globe un peu différentes. Je m'appelle des émotions en fait au départ. Donc il y a une première que je cherche vraiment de retrouver l'année prochaine au départ du Vendée. C'est une sérénité en disant voilà, j'ai tout fait, j'ai coché toutes les boîtes,
ouais.
J'ai travaillé à fond et je suis prête. C'est dur à imaginer parce que il y a tellement de choses à essayer de faire, de naviguer, de entraîner, de apprendre comment réparer chaque pièce du bateau, parce qu'on est vraiment seul et il faut tout gérer pendant les 3 mois. Mais c'est ça que je cherche comme émotion au départ. Je suis prête. Maintenant, c'est un peu je laisse la suite à mon travail, mes navigations, et aussi un peu de chance, le météo. Il y a des choses qui sont aléatoires, hein, qu'on ne peut pas contrôler.
Oui, bien sûr.
Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut contrôler avant pour être prêt. Et un peu comme les athlètes olympiques aussi, c'est un peu la même chose d'essayer de chercher cette sérénité, de dire « ouais, j'ai bossé, j'ai tout fait, je suis prêt ». Après, et c'est ça qui est le prochain, c'est le point d'interrogation qu'on a. Qu'est-ce qui va m'arriver?
Ouais.
Et quand on part sur un Vendée Globe, on sait que quasiment tous les jours, il y a une merde qui se passe sur le bateau.
Ok, donc il n'y a pas de quotidien, en fait,
non,
sur le bateau.
Non, il y a pas de, aussi un peu de quotidien, mais c'est une course à la voile. Donc, on gère le bateau, mais c'est les bateaux, c'est les pièces mécaniques. On navigue sur l'océan où il y a des prévisions météo, mais il n'y a pas trop de prévisions de vagues ni de qu'est-ce qui flotte dans l'océan. Donc, il y a... même les prévisions météo, on peut avoir des grosses tempêtes à gérer, on peut être obligé de dévier de route, de contourner les choses. Il peut nous arriver d'aller sauver un concurrent. Parce que quand on est loin dans le tour du monde, il y a des endroits où il n'y a pas de sauvetage possible parce qu'il n'y a personne en fait. Et on est tellement loin de la Terre. C'est Thomas Pesquet dans la station spatiale qui est plus proche de nous que d'autres personnes. Et donc, on est entre nous, en fait, s'il y a un problème, si quelqu'un a un problème, souvent le sauvetage, ça vient d'un concurrent le plus proche. Et on sait. Donc, ça aussi, c'est une interrogation. Qu'est-ce qui va m'arriver que je sois obligé d'appeler un concurrent ou est-ce que moi, je serais. Je suis obligée d'aller sauver quelqu'un, on ne sait pas. Qu'est-ce que je vais casser? On sait qu'on va casser les choses. Est-ce que je serai capable de réparer? Si je ne suis pas capable de réparer, comment je vais faire? Je sais que j'ai envie, en termes de performance, si mon bateau est à 100%, je suis capable de faire le tour du monde en 70 jours. Mais combien de jours de nourriture je prends? Est-ce que si je casse une pièce sur mon bateau, moi j'ai envie de finir à tout prix. Parce qu'avec le projet Initiative Cœur, on soutient une association, Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui sauve les enfants. Donc j'ai une énorme partie de mon projet avec le soutien du public. On lève l'argent pour sauver ces enfants-là. Si je abandonne la course, c'est comme si je laisse tomber cette association.
C'est une pression supplémentaire.
Les enfants. Donc j'ai cette pression qui fait que je dois finir à tout prix. Donc, je vais pas juste prendre 70 jours de nourriture en disant si je casse un truc, tant pis, je gagne pas, j'abandonne. Moi, je vais essayer de finir à tout prix. Donc, combien de jours de nourriture il faut prendre pour assurer
pour
que
finir, hein.
Si je casse ma bombe, que je vais avancer moins vite? Est-ce que je prends 90, 100 jours? Est-ce que je prends que des pâtes ou est-ce que je prends un peu de chocolat en plus? Donc, c'est tous ces points d'interrogation.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ça, est-ce que le sac que j'ai fait pour que mon équipe m'emmène au Sable d'Olonne à l'arrivée dans 2 mois et demi, est-ce que c'est des vêtements, de ma trousse de toilette? Est-ce que je vais le voir au Sable d'Olonne ou est-ce que je vais le voir à l'autre bout du monde en Australie parce que j'ai coulé? On ne sait pas. Donc tout ça, ça se passe dans nos têtes et je pense que ça aussi, c'est la magie du Vendée Globe. C'est une énorme émotion qui est assez dure à maîtriser. Donc c'est bien d'avoir déjà fait la course pour un moitié maîtriser ça parce que je sais comment c'est. Mais c'est assez important et il faut bien réfléchir avant comment on gère ça. Et après, j'ai toujours chaque fois l'émotion de quand je quitte le ponton et je longe le chenal à Sable d'Olonne, dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir déjà gagné. Parce que c'est tellement dur d'y arriver.
Oui, c'est limite la préparation en fait qui est plus difficile que le tour.
Au niveau de préparation, au niveau surtout de monter un projet. Parce que j'ai fait ça aussi.
Oui, c'est
aussi
ça.
Et j'ai, en 2012, pour le projet 2012, j'ai passé 2 ans et demi avec beaucoup de temps ici à Paris, tourner dans les bureaux des patrons, des entreprises, et de recevoir les noms, les réponses négatives, et de persévérer et réussir avec l'aide de beaucoup de monde autour du monde, monter un projet quand même. Et c'était surtout là en 2012, quand je suis partie, c'était une période assez dure financièrement. Et je me rappelle, quand j'ai descendu du chenal, j'avais l'impression d'avoir déjà gagné. Et là, après, c'est le choc parce qu'on quitte le chenal, on arrive aux lignes de départ, et puis là, ah oui, non, mais maintenant, il faut faire le tour du monde. c'est ça aussi, c'est dur. Et après, une fois on est parti, c'est une autre émotion. On est au village, au Sabdalone, on est avec des milliers de gens pendant trois semaines. Le jour des départs, bon, les jours qui précèdent, même nos familles, les gens qui viennent nous voir, qu'on n'a pas vu pendant des années, parce que tellement c'est énorme le Vendée Globe. Et donc, c'est une période où on n'a jamais eu autant de monde autour de nous que pour nous voir. Et puis, en l'espace de trois minutes, on passe de ça à d'être isolé sur son bateau, tout seul. Avec ces trois mois devant toi, tout seul. Et là aussi, c'est un choc énorme et un choc qui dure à gérer dans les premiers jours de la course.
J'imagine. Et vous avez quand même possibilité de faire des vidéos, c'est ça ?
Donc, ça aide aussi, parce que c'est une sorte de communication avec la Terre qui est de partager ce qui se passe sur le bateau. Et c'est quelque chose que j'ai toujours pris à cœur depuis 2008. Parce que je juge que j'ai tellement de la chance de faire ça. Comme j'ai dit, j'avais l'impression d'avoir gagné quand je parte, parce que monter un projet comme ça et de préparer, c'est tellement énorme. Je me suis dit, c'est pas juste que je garde ça que pour moi. Je sais qu'il y a des gens qui rêvent de faire ça, qui, pour telle raison ou telle raison, ils vont jamais faire. Soit ils n'ont pas trouvé l'argent, soit ils ont eu un problème, soit parce qu'ils ont peur et que c'est pas pour eux, ou même les gens qui aiment pas la mer, c'est une aventure humaine qui peut suivre les enfants, les écoles, les enseignantes. Il y a plein de gens que je sais que ça change leur quotidien de pouvoir partager avec moi le tour du monde. Donc je me suis toujours dit je dois ça, en fait, pour la chance que j'ai sur mon bateau, je dois ça à tous ceux qui adorent de suivre ça avec moi. Donc c'est devenu une passion, et ça fait partie de la course. Et pour moi, c'est, j'ai la performance sportive, c'est un objectif, mais c'est pas que ça. Et j'ai l'autre objectif, c'est le partage. Encore plus maintenant avec le projet Initiative Cœur, parce que mes sponsors sont sponsors mécènes. Et pour eux, ils m'ont dit, chaque nouveau fan, nouveau clic, nouveau partage sur les réseaux sociaux, on va donner un euro de plus à Mécénat Chirurgie Cardiaque.
Ah oui.
Du coup, on a cette opération, un clic, un cœur, donc, je compte beaucoup sur le public. Donc, je sais que si je fais des vidéos sympas et j'ai plus de fans, mes partenaires fidèles et très gentils, ils donnent plus d'argent à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc, j'ai une motivation de plus pour ce partage que j'adore déjà. Donc, maintenant, je suis vraiment dans un projet de rêve, parce que, il y a encore une sens de ce projet, pas que le partage juste pour partager, pour inspirer les gens, mais je sais que ça peut sauver les vies, et du coup ça change les vies de ces enfants et leur famille, et ça n'a pas de prix.
Ouais, c'est ça, c'est fou. Et est-ce que tu pourrais me raconter une anecdote qui t'a fait te sentir puissante quand t'étais comme ça en mer? Quelque chose qui s'est passé et tu t'es dit waouh, j'ai tout défoncé là.
Il y a plein de moments, et des fois, c'est des moments un peu plein milieu de la course où on arrive à réparer quelque chose qui est cassé, et quand on pense qu'on va pas arriver à finir, ou que notre bateau il va rester ralenti, et on réussit à trouver une solution pour une panne, un problème. Je utilise ma diplôme d'ingénieur beaucoup quand je suis en mer, parce que il faut gérer ça. Mais moi, il y a des choses un peu plus symboliques, comme et je vais jamais oublier mon premier passage de Cap Horn. Donc c'était en 2000, en 2009, parce que c'était le Vendée Globe 2008-2009, et on a passé le Nouvel An, le Réveillon, plein milieu de l'océan Pacifique en mer. Et je m'appelle maintenant, même c'était le 11 janvier 2009. Je passe la Cap Horn pour la première fois de ma vie. Et ça, pour les marins, la Cap Horn, c'est un peu comme, comme monter au sommet d'Everest. C'est l'endroit un peu plus, c'est mythique, c'est symbolique pour les marins. Même quand moi j'ai passé, j'imagine en fait tous les marins qui n'avaient pas de choix, qui voulaient pas faire ça, mais c'était leur métier de, il y a très longtemps, quand les bateaux, quand il n'y avait pas le canal de Panama, il n'y avait que ce passage-là, Cap Horn, qui, c'est un endroit où tous les courants, tous les systèmes météo, ils se rencontrent dans une façon un peu chaotique, qui fait qu'il y a souvent un état de mer énorme, beaucoup de vent. C'est un passage obligé, donc on ne peut pas aller s'échapper ailleurs. Donc c'est redouté pour les marins. Comme passage, il y a eu beaucoup de naufrages autour du Cap Horn. C'est dangereux, c'est loin de tout. Mais aussi symbolique pour nous sur le Vendée Globe, quand on passe la Cap Horn, c'est un peu le sortie d'enfer du mer du Sud, parce qu'on sait qu'après on tourne à gauche, on remonte l'Atlantique et on revient dans les eaux où il y a un peu plus de monde. Il y a des bateaux, le sauvetage est à nouveau possible, et donc c'est aussi ça qui est symbolique. Et donc j'avais attendu très longtemps, puisque lors de mon premier tour du monde, donc je parlais quand j'avais 22 ans, on a dit matin, donc on a cassé notre mât.
D'accord.
Avant le Cap Horn, au plein milieu de l'océan Pacifique, sur ce qu'on appelle le point Nemo, c'est le point le plus loin de la Terre quand on fait un tour du monde. Donc on a mis deux semaines avec un gréement de fortune pour rallier la Terre avec notre bateau cassé. Donc quand j'avais 22 ans, je pensais que j'allais passer le Cap Horn. Et finalement, j'ai pas passé, parce qu'on a atterri à Puerto Montt en Chili.
D'accord.
En Amérique du Sud. Donc cette rêve de jeune fille qui suivait ses courses depuis son salon n'a pas été aboutie quand j'avais 22 ans, en 1998. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais arriver, je vais aller voir le Cap Horn dans pas longtemps. Et finalement, j'ai mis 10 ans depuis ce moment-là pour vraiment voir le Cap Horn pour du vrai. Donc pour moi, c'était un des moments incroyables.
C'est fou. Et du coup, pour finir, est-ce que tu as un échec qui t'a fait te sentir, enfin, duquel t'as appris quelque chose et qui t'a appris quelque chose et ce qui t'a le mieux appris?
Oui, et c'est ça qui, j'adore comment tu dis échec, parce que c'est ça qui est dur, et souvent j'envoie des messages aux autres qui ont les problèmes, et j'ai fait ça avec un autre marin cet hiver, qui a cassé son mât sur la tranche de Jacques-Vabre. Je suis marraine de son bateau. Et je sais comment il était dégoûté dessus, et j'essaie de lui envoyer un message en disant, mais c'est les choses comme ça qui te rendent plus fort si tu arrives à remonter. Et pour moi, c'est un échec, et c'est un échec sur le moment, mais il ne faut pas penser comme échec. Comme c'est juste un obstacle qui nous rend plus forte. Et moi, c'était en 2012, donc lors de mon dernier Vendée Globe, qui malheureusement, j'ai cassé mon mât après qu'une semaine de course. C'était vraiment une lutte pour y arriver. Donc, comme j'avais cette impression de gagner fois j'ai passé la ligne de départ. J'avais tout donné pendant 2 ans et demi, et j'avais beaucoup, beaucoup de partenaires autour de moi, parce que j'ai pas trouvé un sponsor. Donc, j'ai rallié, je crois que j'avais 18 ou 19 partenaires, et une équipe qui a tout donné très vite pour monter un projet, pour partir. Et j'avais l'impression d'avoir dessus tellement du monde aussi, parce que je savais que j'avais beaucoup, beaucoup de monde autour de moi qui m'ont soutenu, et c'est ça qui était le plus dur, en fait. C'est pas le dimatage en lui-même, et moi j'étais déçue, parce que pour moi, c'est la course en lui-même, c'est le Graal, et je dis pas les vacances, mais en fait c'est le party series où c'est dur. Oui, c'est dur de faire un tour du monde. Je dis pas au contraire, mais c'est mon passion. C'est là où j'adore. Oui. Je m'exprime. Et j'avais l'impression d'avoir été volée en fait de ces parties de mon projet parce que j'avais plus de mains. Je pouvais plus continuer, donc j'étais déçue pour moi de rater ce tour du monde, de rater tous ces milles de navigation et de plaisir et de des fois ces plaisirs dans le dur. Mais pour moi perso, je savais que ça fait partie de notre sport, c'est un sport mécanique. Des fois, si on ne casse rien, c'est parce qu'on n'essaie pas assez. On n'est pas performante. Bah, on vit sur le.
Oui, l'échec est important en fait pour progresser.
Mais c'était le parti où il fallait retourner voir le public, mes sponsors, mon équipe et de partager cette tristesse avec eux. C'était ça qui est le plus dur en fait. Ça m'a rendu plus fort, c'est sûr, ça me donnait encore envie, même j'avais pas de plus avoir envie, tellement j'étais déçue, donc ça m'a motivée de retourner. Je me suis dit, il faut que je retourne naviguer très vite. Donc il faut que je cherche, et j'ai cherché, j'ai dit il faut que je trouve une opportunité pour naviguer. Donc j'ai cherché, et parmi les bateaux qui naviguaient à ce moment-là, il y avait une équipage féminine qui était en train de se monter pour une autre course autour du monde qui s'appelle le Volvo Ocean Race en équipage. J'avais pas du tout envie de participer parce que moi je voulais continuer la course au large en solitaire et viser le prochain Vendée Globe en 2016. Mais je savais qu'il y avait cet équipage qui montait, qui m'avait contacté parce que pour faire partie de l'équipe. Et j'avais un peu dit non, je navigue en solitaire, je vise le Vendée Globe, je veux absolument pas faire ça. Mais je savais qu'ils s'entraînaient. Et du coup, j'ai dit, il faut que je cherche à tout prix de repartir naviguer. Du coup, je les ai appelés, je dis, est-ce que je peux venir? Parce que pour moi, c'était pour ne pas être dégoûtée et j'avais peur d'arrêter ma carrière si je naviguais pas rapidement. Donc, je les ai appelés pour aller naviguer avec eux, pas vraiment pour essayer. Et j'étais enchantée, donc ils m'ont dit oui. Et puis, j'étais embarquée par cette aventure-là et j'ai fini d'être skipper de ce bateau. Donc, c'était la prochaine étape de ma carrière. Et donc, c'était grâce à cet échec que j'ai appelé cet projet que j'avais un peu mis à côté. Et finalement, j'étais embarquée dans une énorme aventure avec Team SCA sur le Volvo Ocean Race grâce à l'échec du démarrage.
Et du coup, ça doit être très différent en fait de voyager avec une équipe.
C'était très très différent parce que c'est pareil, c'était une course autour du monde sur un bateau de la même taille, plus ou moins. Sauf qu'on était 11 à bord et non pas une toute seule. J'étais le skipper du bateau, donc le chef de cet équipage. Donc pour moi, le parti navigation, je maîtrise, et j'adore ça. Mais j'ai découvert un nouveau métier, c'est le métier de leader.
Manager.
De leader, de manager. Et c'est ça où j'ai appris énormément avec mon équipe et avec aussi les gens autour de nous qui m'ont aidé aussi dans cet nouveau. Nouveau travail, nouveau challenge. Et j'ai beaucoup apprécié cette partie de leader, un bateau très performant dans une course à très haut niveau.
Merci beaucoup en tout cas, Sam, d'être venue parler au micro de Conquérante.
Merci, c'est un plaisir de partager avec vous mes expériences.
Ouais, c'était vraiment très inspirant, très impressionnant. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à toi aussi d'avoir écouté cet épisode de Conquérante. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi et tu peux aussi mettre un avis et 5 étoiles à Conquérante sur Apple Podcast. Tu trouveras toutes les infos dont tu as besoin dans les show notes de cet épisode. Conquérante revient tous les premiers lundis de chaque mois avec plein d'autres sports et de meufs incroyables à découvrir. J'ai hâte de te les présenter. D'ailleurs, si toi aussi tu veux participer, envoie un mail à alix@mademoiselle.com avec en objet « Je fais du sport et j'ai envie d'en parler ». Allez, je te dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Conquérante.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.